Nous avions déjà reçu le chanteur qui est venu aujourd'hui présenter son nouvel album dans notre studio, Alexis Dandievel. Nous avions parlé de lui et là, il nous présente un autre album qui s'appelle « Les enfants des étoiles ». Album, une émission de Didier Blons, montage, réalisation, Gisèle Bihan, aujourd'hui Alexis Dandievel qui nous présente un album tout public pour petits et grands, Les Enfants des Étoiles. Alexis Dandievel, bonjour, Les Enfants des Étoiles, c'est un conte ?
C'est un conte, tout à fait.
C'est pas la première fois que vous travaillez pour les enfants.
C'est la deuxième, en fait, la deuxième ou la troisième, le deuxième disque qui sort.
Vous travaillez beaucoup pour les adultes, vous faites beaucoup de choses pour les grandes personnes qui sont restées de grands enfants. Et alors ce public, vraiment, vous passionne aussi les enfants?
Bah oui, c'est lié au fait d'être devenu papa, tout simplement.
Et oui, il y a donc, on raconte des histoires à ses enfants. Alors c'est quoi les enfants des étoiles?
C'est un conte qui, très brièvement, dans le synopsis, raconte l'histoire d'une petite fille qui va accueillir son petit frère. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est un conte qui parle un petit peu du cosmos, parce que la petite fille s'en va dans le cosmos, sur une étoile filante, pour rencontrer une peuplade qui s'appelle les Enfants des Étoiles, qui cherche dans le cosmos un rayon de soleil pour réchauffer leur soleil qui s'est endormi.
C'est une belle histoire qui commence le soir. Quand les étoiles filantes traversaient le ciel, l'une d'entre elles alors s'approche devant moi. Demande, es-tu d'accord de danser avec moi? Et nous avons dansé le bal mazurka, une valse envolée et même une polka, un rock et un jazz, le tout collé serré. L'étoile me demande d'aller se reposer. C'est une belle histoire qui commence le soir. Et l'étoile filante était bien fatiguée. Je lui ai proposé un lit pour se reposer. Et elle s'est endormie comme elle rayonnait. Et j'ai veillé la nuit, l'étoile qui dormait. Dans son rêve, elle parlait, voici ce qu'elle m'a dit. Il y a dans le ciel des enfants qui cherchaient un rayon de soleil pour se réchauffer. C'est une belle histoire qui commence le soir. Quand les étoiles filantes traversaient le ciel, l'étoile se réveille et s'étire tout en plein. Demande, es-tu d'accord de suivre le chemin? Et j'ai suivi l'étoile là où elle m'emmenait. Rencontrer les enfants qui vivent dans les étoiles, qui voyagent à chercher un rayon d'éternité. Cette histoire sans voile, je vais vous raconter. C'est une belle histoire qui commence le soir. Quand les étoiles filantes traversaient le ciel, l'une d'entre elles alors s'approche devant moi. Demande, es-tu d'accord de partir avec moi?
Alors ça, c'est un peu le synopsis, mais l'idée d'accueillir le petit frère, c'est quelque chose que beaucoup d'enfants connaissent, beaucoup de parents connaissent. Alors parfois, c'est une... On attend le petit frère ou la petite sœur, on ne sait pas toujours, ça met 9 mois quand même à se fabriquer. Et puis, quand ça arrive, eh bien des fois, les enfants sont un peu déçus parce qu'ils pensaient jouer avec un petit frère ou une petite sœur, puis ils se retrouvent avec un nourrisson, c'est même pas un bébé, c'est un nourrisson.
C'est vrai, mais ce conte parle plus de l'origine, de l'origine de la vie, de l'origine aussi de nous-mêmes, de nos molécules, de nos atomes. Donc il y a un petit cours d'astronomie derrière, hein. Comme disait Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles parce que nos atomes ont été fabriqués dans des étoiles qui sont mortes et qui ont ensemencé l'univers. C'est aussi le fait de dire que quand on entend un enfant, il y a un nombre extrêmement important, voire à la limite de l'infini de possibilités pour accueillir qu'une seule personne, un individu, et que l'ensemble de ces possibles pourrait très bien s'appeler les enfants des étoiles, tout simplement.
Votre première enfant, c'était une petite fille?
Tout à fait.
C'est vraiment autobiographique?
Ah oui, tout à fait.
Comment reçoit la petite fille les contes de papa et maman? Parce que je crois que maman aussi, des fois, on l'avait reçue à ce micro. Elle travaille, évidemment, elle collabore avec vous. Vous êtes très proche à ce niveau-là aussi.
Tout à fait. C'est elle qui a signé l'histoire. Et les chansons ont été faites en famille avec mon frère, ma sœur, ma filleule également, qui a signé une chanson. En fait, comment est-ce que les enfants reçoivent ça? Ma fille sait très bien que le disque La Journée d'Irène, c'est son disque. Et là, Terence, qui a 2 ans, attendait avec impatience son disque à lui. Dès qu'il voyait l'image, il disait « c'est mon disque, c'est mon disque ». Bon, maintenant, il l'a dans la main et il l'écoute un petit peu en boucle à la maison en ce moment.
Et alors, comment ils reçoivent chacun? Et j'imagine qu'ils ont une écoute, une approche différente. Ils n'ont pas le même âge. Ça, c'est une grosse différence entre 2, 4, 5 ans.
Ouais. Oui, ils s'assoient tous les deux sur le canapé et ils écoutent avec grande attention. Et quand la musique commence à monter un peu en température, ils se mettent à danser à tue-tête.
Nous sommes les enfants des étoiles et nous voyageons depuis quelques milliards d'années. Nous cherchons un rayon sur la toile, un rayon de soleil, un petit brin d'éternité. Notre soleil s'est endormi, pas moyen de le réveiller. Nous avions froid, nous sommes partis chercher ailleurs l'idée d'une possibilité. Nous sommes les enfants des étoiles et nous voyageons depuis quelques milliards d'années. Nous cherchons un rayon sur la toile, un rayon de soleil, un petit brin d'éternité.
Nous aimons bien danser, chanter. Nous l'avons fait un peu partout, à raconter, à questionner.
Nous cherchons un rayon sur la toile, un rayon de soleil, un petit brin d'éternité.
Moi qui me demandais justement quelle était la raison de votre voyage, votre soleil s'est éteint, c'est bien ça?
Non, il n'est pas éteint, il s'est juste endormi.
Il se réveillera peut-être alors?
Sans doute. Et c'est pour cela que nous cherchons un rayon d'éternité.
Ah, ça me rappelle une belle histoire que m'a racontée mon parrain.
Tu peux nous la raconter?
Didier Blanze vous présente album.
Alors, ils vous ont peut-être vu ou entendu parler du projet, de l'écriture de ce deuxième conte, ou troisième, puisque c'est le deuxième enregistré, mais en fait, c'est la troisième fois que vous travaillez sur des thèmes pour enfants. Ils vous entendent, ils vous entendent musicaliser, je ne sais pas, commencer à chercher, à composer, à... on tourne des accords, on tourne des mélodies, ça se construit, c'est encore une matière brute qui a besoin d'être peaufiné, on a besoin de passer un peu de cire là-dessus, faut rôder comme on rôde un spectacle. Donc ils entendent les premières maladresses et puis ils voient cheminer.
Et ils entendent le début, hein, essentiellement à la guitare-voix ou piano-voix. On essaye les chansons, ils les entendent à ce moment-là. Ensuite, ils entendent, de temps en temps, ils passent au studio. Papa, qu'est-ce que tu fais au studio? Ils viennent écouter les bouts de mixage, etc. Donc, même avant que le disque arrive, ils connaissent déjà une bonne partie. Même si ce n'est pas le résultat final, bien lissé comme il faut pour pouvoir être présentable.
Qui a-t-il derrière les galaxies? Qui a-t-il derrière l'infini?
Il y a toutes les histoires d'amour. Et tous les matins des premiers jours.
Qui a-t-il derrière les galaxies? Qui a-t-il derrière l'infini?
Il y a toutes les histoires d'amour. Et tous les matins des premiers jours.
Choses qu'on met à la poubelle, on dit oh, c'est super, c'est génial, et puis deux jours après on dit ouais, c'est moins bon.
On démarre toujours sur une idée, puis cette idée se construit et il arrive à un moment où il faut être à l'écoute de l'idée. Et en fait, si on est un peu attentif, l'idée, elle se met à expliquer ce qu'elle a envie d'avoir. Donc nous, on avait des chansons au début, qu'on a commencé à écrire pour la naissance de Terrence. Ensuite, mon frère m'a envoyé une chanson, ma sœur m'en a envoyé deux, ma filleule m'en a envoyé une. Et puis on avait en fait des petits bouts de chansons. Et à partir de ça, j'ai écrit un scénario pour raconter un conte, parce que c'était vraiment une envie de raconter une histoire. Et... Et donc ma femme a mis les mots sur le scénario et ça a abouti à ça. Mais il y a eu jusqu'à la dernière minute des choses qu'on met à la poubelle. On hésite beaucoup et on se met à l'écoute. On se dit, on aimerait bien ça. Je pense notamment sur les instruments parce qu'il y a beaucoup, il y a une orchestration un peu conséquente. On aimerait bien ça, on aimerait bien ça. On se rend compte qu'au mixage, en fait, il y a un peu trop de choses et qu'il faut élaguer. Et jusqu'à la dernière minute, on cherche pour que ce soit au meilleur pour servir l'histoire, en fait. Et il arrive un moment où on sait que ça nous appartient plus, qu'on est au service de ce qui est en train d'arriver. En fait.
Il y a 15 titres sur ce titre et sur ce disque. Et justement, ça représente combien le pourcentage de chansons qu'on regrette de ne pas avoir mis parce qu'on n'a pas la place ou parce qu'on se dit, tiens, ce titre-là, il est pas mal, mais il est pas au niveau des autres. C'est combien le déchet ?
Bon, il y en a quelques-unes, on va dire. Puis il y en a qui sont arrivées en cours de route, mais qui n'étaient pas à propos, donc ils feront peut-être partie d'une aventure ultérieure, on verra. Puis les chansons peuvent aussi très bien rester guitare-voix et dans le cadre familial.
Oui, des fois on retravaille, on garde une idée, on garde la musique ou le texte. Alors, vous travaillez en famille, j'ai cru me rappeler par rapport aux dernières interviews que vous aviez chez vous un studio.
Oui, tout à fait.
Alors, ça marche comment, ça ?
Alors, le studio a changé depuis la dernière fois parce que j'ai décidé de l'hybrider. C'est-à-dire que j'ai fait l'acquisition d'une ancienne console des années 80, une belle anglaise, comme on dit, qui a un son très particulier. Et en fait, au lieu de tout mixer in the box, c'est-à-dire à l'intérieur de l'ordinateur, le mixage de cet album a été fini à la console analogique, à l'électronique en fait, et ça apporte quelque chose que je trouve pertinent, et autant en termes de facilité qu'en termes de son, qu'en termes de chaleur, etc.
Une grosse difficulté pour les artistes qui n'ont pas les grosses maisons derrière, les grosses multinationales, eh bien, c'est de distribuer le disque. Et des fois, on entend parler d'un chanteur, on se dit, tiens, comment on fait pour avoir le disque ? On va au champ, évidemment, on ne le trouve pas dans les grands hypermarchés. Comment on fait pour se procurer les enfants des étoiles à Alexis Dandievel et toute la petite famille.
Alors, pour l'instant, le plus simple, si vous écoutez cette émission, c'est d'appeler Radio Albatros, qui vous expliquera la marche à suivre. Mais avec mon petit label VXL Records, notre collectif C'est nos marins, on est en train de mettre en place une boutique en ligne où on va proposer la vente de disques que l'on a... Qui ont déjà été faits, etc.
Donc, on peut reciter le nom du site internet ?
Ça va être vxlrecords.fr. Mais pour l'instant, il est en construction. VXL, c'est l'association Voie Lactée. Vous voyez que c'est à propos hein, sur le disque. Et donc, vxlrecords.fr. Mais c'est en cours de construction.
Je m'en vais, j'ai fait mes bagages. Je m'en vais, je pars en voyage. Je décolle. Ce voyage avec moi. On m'a dit que tout là-bas il y avait, je le crois pas. Ah, 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 ah. Une matoutou à Maripasoula, un flamenco à l'Alhambra, une remonta à Honolulu, un dromadaire à Tombouctou, un makikata à Madagascar, un baobab à Zanzibar. Ce monde, il paraît qu'il y aurait pour de vrais noms, je n'ai rien inventé. Un sorcier dans la vallée des merveilles, un dodo au piton de la fournaise, une aurore boréale au cercle polaire, un tango à Buenos Aires, des dates à Ouarzazate, un troupeau de yaks à Katmandou. Un grand condor au mâchoire fléchou.
aller voir s'il y a. Salsa à la Havane, un serpent à plumes à Teotihuacan, un tour de jonque dans la baie d'Along, un personnage au grand paradis, un œil de Sainte-Lucie à Calvi, un diable en Tasmanie, des poules biches en Nouvelle-Ski.
Et son émission album.
Alexis Dandievel, au départ, vous composez comment? Avec quel instrument?
Avec le piano. J'ai une soixantaine d'instruments à la maison. Dès que j'en prends un, je compose. C'est à peu près aussi simple que ça. Après, ça marche toujours par étapes. L'inspiration ne m'a jamais posé de problème depuis mes 20 ans. Je sais écrire la musique. Donc je note les idées, le plus difficile c'est tout le travail après, c'est une fois qu'on a une idée, qu'en faire, l'arranger, la mettre en forme, le travail du texte sur les mélodies, à partir de la mélodie, tout ce qui est orchestration, tout ce qui est harmonie, et ensuite tout ça après ça prend beaucoup de temps pour arriver au mixage et au résultat final, etc. Mais l'inspiration en elle-même, ça peut aller très très vite.
Pour expliquer aux auditeurs qui ne sont pas forcément musiciens, l'avantage d'un clavier, c'est qu'il y a deux mains. Quand je dis qu'il y a deux mains, il y a une main qui peut faire des basses ou des accords, c'est-à-dire poser vraiment la structure musicale, éventuellement même le rythme, et la main droite, c'est ce que faisait d'ailleurs généralement Brassens. Brassens, on l'imagine toujours piètre guitariste, alors qu'en fait c'était un excellent guitariste, mais surtout il composait au piano, c'est-à-dire qu'avec la main droite il pouvait chercher la mélodie alors que la main gauche cherchait les accords. C'est un instrument vraiment complet, le piano ou le clavier, alors que la guitare, eh bien généralement on pose souvent des accords ou un rythme, et à ce moment-là il faut chantonner ou imaginer dans sa tête la mélodie. C'est un autre mode de fonctionnement.
C'est vrai, mais pour la chanson, les deux s'apparaissent. Pour chercher les mélodies, le piano, je ne dirais pas mieux que ce que tu as pu dire. Par contre, ce qu'apporte la guitare, c'est plutôt ce côté un petit peu rythmique et ce côté un peu évident de la chanson, et aussi l'obligation de poser la voix sur la mélodie et de voir où elle peut aller, d'aller chercher les doubles voix sur une place harmonique qui est moindre que le piano. La guitare prend moins de place et donc ça laisse plus de place à aller chercher la voix, la mélodie, le placement de la voix, le texte lui-même, etc. Moi, je fais systématiquement les deux quand il s'agit de chansons.
Sur ce disque, il y a des textes introductifs aux chansons?
Il y a un conte qui lit toutes les chansons et qui est raconté par une petite fille qui s'appelle Esther.
Et qui est?
Qui est la fille de ma sœur. Tout simplement.
On reste définitivement en famille.
Oui, on a fait ça en famille. Oui.
On mange après, on boit un coup.
On se voit pas souvent parce que Esther habite à Nice, hein, donc on se voit pas tous les jours. Une partie de ce disque a été enregistrée il y a un an au moment des fêtes de fin d'année, entre le plat de résistance et le fromage. Pour être à peu près simple, on avait posé un petit coin avec un micro et on a réussi à enregistrer à ces moments-là, ou sur les siestes, sur les temps calmes, etc.
L'avantage des home, ce qu'on appelle les home studios, qui sont effectivement des petits studios d'enregistrement, qui sont facilement déplaçables.
Oui, on peut promener un studio d'enregistrement dans une valise facilement.
Et aujourd'hui, avec le numérique, on fait des merveilles.
Tout à fait.
Et avant, ça craquait. Un disque qui... Il vous a fallu combien de temps, en fait, pour l'enregistrer entre le début où on écrit l'histoire, le moment où on commence à composer et le moment où on dit, ça y est, on fait un disque, on met bout à bout...
Il y a eu un an d'écriture et un an d'enregistrement et de travail de son. Il y a eu beaucoup de... On ne s'en rend pas compte à l'écoute, hein, du disque, et c'est tant mieux. Mais il y a eu énorme, enfin un travail titanesque d'édition sur ce disque, parce qu'il y a à peu près, il y a plus de 120 pistes, vu la manière dont ça a été enregistré, par-ci, par-là, des bouts dans le sud, des bouts en Bretagne, des bouts dans le nord, des bouts au Havre.
On rappelle que Tino Rossi enregistré sur une piste.
Oui, voilà, c'est ça.
Et les Beatles ont commencé par des quatre pistes. Ouais, et les Pink Floyd ont mis plusieurs multipistes de quatre pistes les uns derrière les autres pour commencer à truquer. Aujourd'hui, avec le numérique, c'est vraiment formidable. On a vraiment du matériel professionnel dont n'aurait jamais osé rêver Tino Rossi et...
Tout à fait, j'ai moi-même commencé aux 4 pistes hein, il y a des années, mais c'est un petit peu l'avantage en gros d'utiliser le meilleur des deux mondes entre le numérique et l'analogique, le numérique notamment pour la qualité d'édition, la possibilité quand on enregistre des enfants, parce qu'il y a pas mal de voix d'enfants sur ce disque, on a beaucoup de bruits de bouche qui peuvent être désagréables et qui desservent la musique, et donc il y a un travail d'édition de fourmi, hein. Pour réussir à servir le propos musical sans desservir la voix, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a travaillé en ce qu'on appelle stéréomix, c'est-à-dire qu'on a concentré les 120 pistes sur 16 pistes, 8 stéréos, par famille d'instruments, en fait, tout simplement. Et c'est cette partie-là qui a été mixée ensuite sur console analogique. Pour aller récupérer un peu plus de grains, de chaleur.
Donc vous êtes auteur, compositeur, multi-instrumentiste, vous enregistrez, vous faites du multipiste, et en plus, il y a ce travail de preneur de son.
Oui, oui, tout à fait.
Ouais. Qui est, quand on parle d'ingénieur du son, c'est pas de la rigolade, c'est un métier bien à part.
C'est des compétences. En fait, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a une partie théorique, hein. Il y a d'excellentes formations d'ailleurs qui existent là-dessus. Moi, je suis plutôt autodidacte là-dessus, même si j'ai une formation plutôt dans l'électricité au départ, et notamment aussi le traitement du signal. Mais il y a beaucoup de savoir-faire aussi, en fait. Maîtriser son outil, on peut très facilement avoir un outil considérable sous la main. Si on ne sait pas s'en servir, ça ne sert à rien. C'est la maîtrise de l'outil, savoir quel micro fait quoi, comment je m'y prends, comment je vais faire après, etc. Qui fait que oui, moi je suis aussi réalisateur de disques, je réalise des disques.
Alors justement, pour se procurer ces disques, on rappelle un site internet qui est en construction, mais qui va devenir effectif bientôt, non seulement pour commander ce disque, mais aussi... d'autres chanteurs qui travaillent avec vous dans votre association, une bande de copains,
tout à fait.
Une bande de créateurs. On rappelle ce site qui
VXL Records.
VXL Records. Alexis Dandievel, je vous remercie. C'était le 748e numéro d'album. Nous recevions aujourd'hui Alexis Dandievel pour ce deuxième conte musical sur disque, le troisième qu'il a écrit avec sa femme, Les Enfants des Étoiles. Portez-vous bien, je vous remercie pour votre fidélité. Au revoir à tous.